Il est 13h sur France Inter. Le journal Alexandra Duboucheron. Bonjour Alexandra.
Bonjour à tous. Et à la une, cette canicule qui s'installe, des records de chaleur nocturne battus. 30 degrés ce matin à Lille et à Paris, jusqu'à 40 attendus dans l'après-midi. On vous expliquera aussi cette alerte rouge activée hier par Météo France. Il fait chaud, mais sortez vos gants et vos doudounes, direction la patinoire du Mans. C'est le bon plan fraîcheur du moment, reportage à suivre. Le coronavirus regagne du terrain dans le pays, plus de 2000 nouveaux cas en 24 heures. On parlera des formes longues de la maladie et du masque obligatoire à Marseille. C'est essentiel et limité, rappelle la mairie. Dans ce journal, nous irons à Beyrouth où nous attend Nathanaël Charbonnier. Les habitants entre deuil et colère après l'explosion de mardi. Une grande manifestation est prévue en milieu d'après-midi. On s'intéresse à la polémique autour des Verts et du Tour de France, à ce documentaire sorti en salle cette semaine, Dawson City, sur la mémoire retrouvée de la ruée vers l'or. Et puis vos conditions de circulation à la fin du journal. Aujourd'hui, c'est départ en noir, retour en rouge.
France Inter.
La France suffoque, troisième jour de cette nouvelle vague de canicule et il fait déjà très chaud sur une majeure partie du pays. Météo France maintient son alerte orange pour 53 départements et même rouge pour 9 autres. Une grande partie de l'Île-de-France, dont Paris, l'Eure également et la Seine-Maritime. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Alexandra.
Prévisionniste chez Météo France, notre monsieur météo chez nous à France Inter, Jean-Pierre, cette alerte rouge Météo France ne l'a activée que 3 fois dans son histoire. Les 2 dernières, c'était l'an dernier en 2019. Que signifie ce rouge concrètement ?
Bien Alexandra, cela correspond à un épisode caniculaire remarquable en termes d'intensité et de durée, particulièrement intense dans les zones très urbanisées, et puis de tout dans un contexte de sensibilité importante lié d'abord à la pollution à l'ozone et au Covid-19. Et puis nous allons prendre en compte la valeur des températures nocturnes qui sont extrêmement chaudes, voire de nature tropicale. D'ailleurs, la nuit dernière a été particulièrement étouffante entre les collines normandes et la baie de Seine et jusque vers la côte d'Opale. Des records absolus de température minimale ont été battus avec des valeurs voisines de 25 degrés. Pour exemple, nous avons relevé 25,2 à Boulogne-sur-Mer, 25,1 à Pré-en-Paille dans les Alpes-Mancelles et 22,2 à Alençon.
Et pour cet après-midi et pour cette nuit, pas d'amélioration, toujours cette chaleur étouffante, Jean-Pierre.
Oui, alors excepté près des littoraux où l'air sera plus respirable, effectivement les températures maximales cet après-midi évolueront entre 33 et 40 degrés. Les valeurs les plus chaudes sont attendues entre la région centre et l'Île-de-France et de la Haute-Normandie aux régions du Nord. Dans le détail, prévoyez 38 degrés à Rouen, Tours et Orléans, 39 à Lille et jusqu'à 40 dans la capitale. Et puis attention, à la nuit prochaine, les températures nocturnes seront une nouvelle fois étouffantes, et en particulier entre la région parisienne, la Haute-Normandie et le Pas-de-Calais. Elles resteront une bonne partie de la nuit au-dessus de 30 degrés et les minimales en fin de nuit afficheront encore 25 ou 26 degrés.
Et pour fuir cette chaleur, merci Jean-Pierre Hameau, on vous donne un truc, même si c'est pas très écolo a priori, se réfugier sur la glace, c'est en tout cas l'idée qu'a eu Jeanne Dossé de France Bleu Maine. Elle a enfilé ses patins, direction la patinoire City Glace au Mans dans la Sarthe. Attention, choc thermique.
Presque 40 degrés dehors contre seulement 15 petits degrés dans la patinoire. Alors forcément...
ça commence à être super froid.
Ça fait froid, ça fait frais, ça fait du bien.
Pourtant sur la glace, t-shirt et bermuda sont au placard. Tous les patineurs sont bien couverts, comme Chloé, 12 ans.
On a le pantalon, on a la doudoune et on a les pieds dans quelque chose de fermé. Alors que d'habitude on est en tongs, on est en sandales. Ça fait super bizarre.
Et surtout qu'à force de faire des figures sur la glace, les fronts sont perlés de sueur, comme celui d'Éric.
Ah, surtout que le patinage avec le masque, ça aide pas trop là. Malgré l'effort sur la glace, ça rafraîchit quand même, on va pas le nier, ça fait du bien.
On craint pas trop la sortie là quand même ?
Pensez à enlever la polaire avant de sortir quoi.
Car il faut faire attention au coup de chaud à la sortie. Pour l'éviter, Julien de la patinoire City Glace explique qu'il faut
mettre un gilet et surtout l'enlever dans le sas. Rester dans le sas et se déshabiller. En fait, pour aller dehors, le coup de chaud il arrive très vite.
En tout cas, avec la canicule, la patinoire observe une hausse des entrées. 70 à 80 personnes se pressent sur la glace chaque après-midi.
Un reportage France Bleu signé Jeanne Dosset pour France Inter. Les indicateurs du coronavirus en France se dégradent. Les mots sont de la Direction Générale de la Santé, la DGS, qui a appelé hier soir à renforcer la vigilance, en partie chez les jeunes adultes. Cette semaine, 10 000 nouveaux cas ont été détectés, dont 2300 ces dernières 24 heures. C'est inédit depuis le mois de mai. On compte aussi 12 décès de plus, ce qui porte le total à 30 300 morts dans le pays. Le virus et ses conséquences que l'on connaît de mieux en mieux avec le temps. Alors qu'on pensait par exemple que les symptômes ne duraient pas au-delà de quelques jours, on constate c'est des formes longues de la maladie Covid-19. 5 à 10% des patients en souffrent, les précisions de Véronique Julia.
Ces formes longues après une infection pas forcément très grave touchent souvent des patients jeunes et jusque-là en pleine santé. Les examens sanguins ou d'imagerie ne montrent plus aucune anomalie et pourtant ils se plaignent souvent de la même chose. Essoufflement, gêne à la poitrine, emballement de la fréquence cardiaque, grande fatigue à l'effort. Une fois qu'on a vérifié que le bilan respiratoire est bon et qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, il reste pour expliquer le phénomène cette hypothèse d'après le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. L'essoufflement pourrait venir du système nerveux autonome. C'est le système qui commande dans le cerveau nos gestes involontaires. Les petits vaisseaux sanguins endommagés par le virus irrigueraient mal et empêcheraient la commande de bien se faire. C'est ce qu'on appelle la dysautonomie.
Le système nerveux autonome, il règle votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, vos sphincters. Et le fait que ces petits vaisseaux soient endommagés a très probablement créé une inflammation locale qui fait que cette partie du cerveau est déréglée. Et ce dérèglement va créer cette sensation d'essoufflement puisque nous, ce qu'on voit, c'est 90% de ces individus, au repos, ils ont une fréquence cardiaque à plus de 100, alors que ces gens-là, ils n'ont aucune raison d'avoir plus de 60 de fréquence cardiaque.
L'hypothèse mérite évidemment d'être approfondie. Si elle se confirmait, ça prouverait que les symptômes persistants décrits par les patients ont une vraie explication médicale. Ces symptômes ne seraient pas irréversibles, surtout si le patient est jeune. Avec une bonne rééducation, on doit pouvoir guérir au bout de quelques mois.
Et toujours pour empêcher la propagation du virus, à partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire en plein air à Nancy, Rennes, Saint-Tropez ou encore Marseille. Et ce, uniquement dans certaines zones fréquentées et même dans la cité phocéenne, par exemple, à certaines heures. Pour l'adjoint au tourisme de Marseille, ce n'est donc pas si contraignant, même avec la chaleur. Laurent Lardy répond aux réticents du masque.
Ça concerne trois secteurs de la ville qui sont quand même assez réduits, le Vieux-Port et l'Hypercentre à partir de 10h du matin. Les deux autres secteurs, c'est-à-dire celui des plages et celui du cours Julien et de la Plaine, ça n'est qu'à partir de 19h le soir, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement ces zones deviennent extrêmement densément peuplées, avec des gens effectivement qui font la fête. Moi je trouve quand même que là, par exemple en journée, si vous êtes sur cette avenue au bord des plages, vous n'avez pas porté de masque, c'est à partir de 19h. Donc la contrainte est quand même assez réduite et je pense qu'elle est essentielle, mais elle a été vraiment bien ciblée et bien mesurée. Je suis le premier à trouver que c'est assez désagréable de porter un masque en période de canicule. Pourtant, je le fais. Donc, je crois d'ailleurs qu'il y a des exceptions qui sont faites pour un certain nombre de cas médicaux. Il faut l'appliquer. On est dans une situation où la transmission aujourd'hui, et notamment sur Marseille, effectivement, avec un retour des cas, il faut être absolument prudent.
Laurent Lardy, adjoint à la mairie de Marseille avec Jules Dequisse. Pas de sanctions dans un premier temps à Marseille, mais des contrôles pédagogiques en cas de non-port du masque. Un gendarme placé en garde à vue à Montauban, cet adjudant de 36 ans a tué un chauffeur routier qui refusait d'obtempérer hier sur l'autoroute A20. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est saisie.
France Inter, le journal de 13h. Alexandra Dubouchereau.
C'est un pays à genoux qui s'apprête à défiler. Les Libanais manifestent cet après-midi à Beyrouth, capitale dévastée, meurtrie par la double explosion sur le port il y a 4 jours. 154 morts, 5000 blessés et des centaines de milliers de sans-abri. De quoi alimenter la colère contre les dirigeants politiques jugés corrompus, incompétents, responsables du drame de mardi. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour à tous.
Envoyé spécial de France Inter au Liban. Cette manifestation doit commencer vers 15-16h, heure française. Des milliers de personnes sont attendues, mais il y a déjà du monde sur place où vous vous trouvez, Nathanaël.
Oui, nous sommes en plein cœur de Beyrouth et la scène là, que vous entendez derrière moi s'est déroulée il y a quelques minutes quand le gouverneur de Beyrouth est passé avec sa voiture noire. Immédiatement, la foule s'est rassemblée et a commencé à taper la voiture, à lui lancer des bouteilles d'eau, à écrire sur le capot noir le mot « révolution ». Conséquence, eh bien, le gouverneur a dû fuir parce qu'ici, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir ces hommes politiques qui prennent l'argent et qui oublient le peuple. Vous savez, ici, où que le regard se tourne, vous sentez la colère. Elle est partout. Il y a la colère de la rue, la colère des façades, la colère des morceaux de verre sur le sol, la colère du quotidien, la colère du drame, la colère de ce Beyrouth défiguré.
Paris, Charles-Aouzat.
Le Liban, c'est Paris du Moyen-Orient et aujourd'hui, le Liban, c'est un pays du Moyen-Âge.
La kahraba,
on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'essence, on n'a pas de mazout, il y a du chômage,
La mort, pas
d'hôpital, il n'y a rien au Liban. Rien du tout. Pour nous, c'est plus facile de mourir que de vivre ce qu'on vit aujourd'hui.
Justice pour les victimes, vengeance contre le régime, c'est le mot d'ordre de la journée. Une journée qui promet vraiment d'être longue, avec une manifestation qui devrait donc rassembler, vous l'avez dit, beaucoup de monde. Parce que ce qui a changé avec l'explosion de mardi, c'est que maintenant on sait au Liban que la corruption, elle tue.
Voilà pour la colère. Et en attendant, Nathanaël, les secours, eux, ont engagé une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants.
Il va falloir du temps, vous savez, pour connaître le bilan définitif. Alors, il y a les chiffres qui bougent sans cesse. Il faut savoir qu'il y a des immeubles qui continuent de s'effondrer ici. Plus de 150 tués, dont 25 personnes qui ne sont pas encore identifiées. Il y a ces 70 disparus que les secours recherchent toujours. Jeudi, lors de la venue d'Emmanuel Macron, la sécurité civile estimait qu'il était encore possible de trouver des personnes vivantes. Mais évidemment, plus le temps passe, plus les espoirs deviennent faibles. Ils seraient quasi nuls maintenant. Mais on a déjà vu, vous savez, des miracles dans ce genre de situation. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier aussi que l'explosion a fait 5000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri.
Nathanaël Charbonnier à Beyrouth pour France Inter avec les moyens techniques de Stéphane Beaufis. L'aide humanitaire s'organise. Après Emmanuel Macron, le président du Conseil européen, Charles Michel, est attendu sur place aujourd'hui. Nous fournirons de l'aide, a-t-il promis sur Twitter. Tout le monde veut aider, a aussi écrit Donald Trump cette nuit. Le président américain participera à la visioconférence des donateurs co-organisée par l'ONU et par la France demain à 14h. La colère aussi en Hongrie. La culture veut se faire entendre avec le coronavirus. Les rassemblements de plus de 500 personnes sont interdits dans le pays jusqu'au 15 août. Tous les grands festivals de musique ont donc été annulés. Sauf que les matchs de football, eux, sont autorisés depuis mi-juin avec des milliers de personnes en tribune, des milliers de spectateurs. Un paradoxe dénoncé hier par des amateurs de musique dans les rues de Budapest. Florence Labruyère a suivi cette manifestation pour France Inter.
Cheveux longs et bottines noires, Sylvester est un grand amateur de rock. Il est venu manifester contre la décision d'interdire les festivals qui accueillent plus de 500 personnes alors que les matchs de foot sont autorisés.
Le gouvernement dit que c'est parce que le public consomme de l'alcool pendant les concerts, comme si les supporters de foot ne buvaient que du jus d'orange.
Cette semaine, il y a eu de nombreux matchs avec parfois plus de 6000 spectateurs. Si les matchs sont permis, c'est pour une bonne raison, estime Laszlo, qui est infirmier.
Le sport favori du Premier ministre, c'est le foot. C'est pour ça que les matchs ont lieu. Pourquoi croyez-vous qu'on peut voyager en Croatie? C'est parce que tous les membres du gouvernement y passent leurs vacances. Ils ont leur yacht là-bas.
En tout cas, l'annulation des festivals est une catastrophe pour les musiciens. Martonello dirige Aerie Mafia, l'un des groupes hip-hop les plus connus du pays.
Cette année, on devait fêter nos 15 ans avec un nouvel album. On avait 60 concerts prévus. Le groupe fait vivre 20 personnes. Je ne vois pas comment on va survivre.
Selon le porte-parole du gouvernement, les musiciens s'en sortiront car ils vendent des disques. Mais en 2020, plus personne ne vend de disques, ont répliqué les artistes. Les concerts live représentent 90% des recettes. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
À l'étranger, en bref, une marée noire est en cours à l'île Maurice après l'écoulement d'hydrocarbures d'un vraquier échoué. Emmanuel Macron annonce l'envoi d'équipes et de matériel sur place depuis la Réunion voisine. Après la qualification de Lyon hier, suite et fin de la huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions de football, Bayern Munich, Chelsea et Barcelone Naples, coup d'envoi à 21h. En cyclisme, la Milan-San Remo, première grande classique du déconfinement, s'était lancée il y a un peu moins de 2 heures. Et puis nous sommes à un peu plus de 20 jours du coup d'envoi du Tour de France. Lundi, on connaîtra la ville départ après l'abandon de Copenhague. On avait pensé à Brest ou à Rennes en Bretagne, mais ici comme ailleurs, les élus écologistes font de la résistance. Ils fustigent, Stéphanie Mora, une compétition coûteuse et polluante.
Aucun élu vert à la mairie de Rennes n'a voulu s'exprimer au micro, mais l'adjointe aux mobilités Valérie Faucheux a confirmé à France Bleu Armorique que le groupe ne voulait pas du tour. Le sénateur breton Joël Labbé précise les choses.
La décision a été prise d'un commun accord à l'intérieur de la majorité rennaise, socialiste et écologiste. C'est de l'ordre de 700 000 euros l'accueil d'un départ du Tour de France. Alors on va dire il y a du retour économique, mais d'un autre côté on ne peut plus jouer comme cela avec l'argent public.
L'allergie au Tour de France, ce n'est pas une exception rennaise. D'autres nouveaux élus y issus de la vague verte des dernières municipales s'interrogent. Éric Piolle, à Grenoble, lui, a bien voulu du tour, mais le maire reste critique sur d'autres aspects de la caravane.
Ce qui est sûr, c'est que le tour doit aussi évoluer, notamment dans la montagne. La lutte contre la pollution générée par tout ce plastique est évidemment fondamentale, et donc on continue de porter ce message-là vis-à-vis des organisateurs du tour.
De manière générale, les Verts n'aiment pas ce qu'ils appellent le sport business, mais la popularité de la course dans tout ça. Le chef de file des Verts à la région Occitanie, Gérard Onesta.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on garde le côté liesse populaire sans avoir les excès? Souvent, dans le sport business, la raison est restée au vestiaire.
Mais signe que le tour est un sujet sensible, la direction nationale du parti s'est bien gardée de réagir à la polémique rennaise cette semaine.
Stéphanie Mora, France Bleu Armorique pour France Inter. Il est 13h15, le cinéma muet à l'honneur en ce moment dans les salles obscures. Un autre bon moyen tient de fuir la canicule. Le documentaire américain Dawson City, Le Temps Suspendu, est sorti mercredi. Il revient sur une découverte incroyable, inestimable, en 1978 dans cette ville du nord du Canada. Alexis de Meyer, des centaines de bobines retraçant l'histoire de la ruée vers l'or.
En creusant la terre gelée de Dawson City pour y construire un centre de loisirs, un conducteur de pelleteuse est tombé sur une mine, 533 pépites des bobines de pellicule nitrate, miraculeusement conservées dans le permafrost. Un très heureux hasard quand on sait que les trois quarts de la production mondiale de films muets sont définitivement perdus. En prenant cette découverte pour point de départ, le réalisateur Bill Morrison retrace l'histoire de Dawson City, ville champignon proche du cercle polaire qui a compté jusqu'à 40 000 habitants en 1898. Sur ces trésors cinématographiques figurent d'ailleurs des Amérindiens chassés de leur terre par une marée humaine. On aperçoit aussi Jack London, les frères Guggenheim et Frédéric Trump, le grand-père de l'actuel président américain qui fit fortune dans les maisons closes. Lors de son âge d'or, Dawson City était un haut lieu de divertissement avec ses casinos, ses salles de bal et ses cinémas où les films arrivaient péniblement 2 ou 3 ans après leur sortie en Europe ou à Hollywood. Les pionniers de la conquête de l'Ouest font ici écho aux pionniers du 7e art. Dawson City est un documentaire muet sur le cinéma muet, un film exigeant, captivant et particulièrement émouvant.
Voilà, et retour au temps présent avec la route. Dernier week-end de chasse et croisée des vacances sur les routes de France. Le pic de bouchons a été atteint ce samedi à 12h05 avec 820 km de bouchons cumulés selon Bison Futé. Antoine Geoffin, vous êtes au PC Mobilité de Radio France. Et Antoine, c'est saturé en ce moment sur l'A7.
Oui, c'est la principale difficulté dans le sens des départs. D'abord, comptez 3h30 de route entre Lyon et Orange. Ça bouche à partir du sud de Vienne. 27 km de bouchons de Larnage à Étoile-sur-Rhône. Autre grosse difficulté, c'est au sud de Valence, 26 km de bouchons entre Livron-sur-Drôme et Savas à cause d'un accident entre 5 voitures. Dans l'autre sens, comptez près de 3h30 d'Orange à Lyon. C'est surtout chargé entre Orange et Valence. Ça roule mieux ensuite. 22 km de bouchons quand même entre Donzère et Savas avant d'arriver à Montélimar. Autre axe très chargé ce midi, c'est l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Vous mettez 2 heures dans les deux sens. Vous freinez sur l'A10 Sainte-Bordeaux et Bordeaux-Sainte en 1h20. À part ça, tout va bien sur l'A6 et pas de difficultés particulières en région parisienne.
Antoine Geoffin est prudent sur la route. On rappelle cette vigilance rouge canicule pour 9 départements du nord-ouest du pays, dont Paris. C'est orange pour 53 départements.